L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Bon, on va commencer avec un mot de prière. Êtes-vous prêts? Bien, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, puis on veut juste te louer. Seigneur Dieu, on veut te dire, Seigneur, comment on t'aime. Et malgré la froideur dehors, Seigneur, on veut vivre la chaleur de ton esprit ici. Seigneur, peu importe comment on peut sentir physiquement, peut-être la fatigue du soir, on veut juste te remercier parce que, Seigneur, on croit dans ta parole qui dit tu peux venir nous rafraîchir dans ta présence. On veut t'accueillir, Esprit de Dieu. Viens, Seigneur, vraiment nous enseigner des choses nouvelles. Merci, Seigneur Dieu, parce que t'es là, t'es présent parmi nous. On te loue, Seigneur, nous t'aimons. On veut s'approcher de toi, puis on veut vivre des expérience nouvelle avec toi. Parce que Seigneur, tu ne nous appelles pas à vivre juste des choses toujours terre à terre, mais tu veux qu'on vive vraiment le summum de la gloire avec toi. Puis on veut se positionner ce soir dans la foi et dans l'expectative, sachant que c'est toi, Esprit de Dieu, qui nous révèle des choses et qui nous conduit. Tu nous conduis, Seigneur Dieu, dans les expériences spirituelles qu'on peut vivre dans ta présence. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. On a vu plusieurs choses dans l'école de la gloire. La première fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé du surnaturel. Et puis, on a parlé comment il y a plusieurs chrétiens qui ont peur de vivre le surnaturel. Que les chrétiens ont toujours peur. Quand c'est surnaturel, on dirait que ça doit être le diable. C'est ça qu'on a vu dans notre première soirée. Il y a beaucoup, beaucoup de crainte dans le monde chrétien quand on parle du surnaturel. Les chrétiens en général croient dans la parole de Dieu. Hein? Les chrétiens vont tous croire dans la Bible. Puis on va le dire, oui, la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Puis on sait certainement, c'est un livre qui est là, puis qu'on l'a reçu d'une façon surnaturelle. Hein? Tout le monde, on va tous croire ça. Mais dans l'expérience, souvent, les gens ne croient pas dans l'expérience surnaturelle de la Bible. Vous comprenez? Souvent, les gens vont dire, bien, si telle chose est surnaturelle, on va remettre en question si c'est vraiment de Dieu. Avez-vous déjà rencontré ça dans votre expérience chrétienne? Si vous parlez d'une chose surnaturelle, que peut-être vous voyez les gens sont un petit peu réticents. Oui, ben moi, je l'ai vécu souvent. Où on est là, on parle des choses surnaturelles, puis OK, mais est-ce qu'on est certain que c'est vraiment de Dieu? Mais si on lit la Bible, on voit bien, la Bible est remplie de récits surnaturels. C'est vraiment surnaturel d'un bout à l'autre. Là. Sauf que ça serait anormal pour nous, les enfants de Dieu, s'imaginer qu'on va vivre une vie juste terre à terre parce que ce n'est pas le Dieu de la Bible qu'on retrouve. Comme la vie terre à terre, ce n'est pas pour l'enfant de Dieu. En gros, c'est ça qu'on a vu dans notre première soirée. La deuxième soirée, on a parlé, bon, si on veut vivre la gloire de Dieu, puis quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de vivre la présence de Dieu. Puis la gloire de Dieu peut se manifester de plein de façons. Mais comment est-ce qu'on peut vivre la gloire de Dieu? Bien, une des choses, c'était d'avoir une vie d'adoration. C'est ça qu'on a vu dans notre deuxième soirée ensemble. Comment adorer Dieu et vivre vraiment des temps bénis dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Mais on a vu que ce n'était pas simplement un dimanche matin, ce n'est pas un appel à simplement vivre une demi-heure ou 40 minutes à chanter des chants. L'adoration, ce n'est pas des chants. L'adoration, c'est une vie. C'est ça qu'on a dit. C'est d'adorer Dieu à chaque jour de notre vie, chaque moment de notre vie. Tout ce qu'on fait, même si on n'est pas toujours conscient qu'on est en train d'adorer, on est en train de faire du travail, on n'est pas nécessairement conscient qu'en ce moment, je suis en train d'adorer Dieu. Mais en fait, on le sait que notre vie, c'est de l'adoration. Tout ce qu'on fait, c'est en réponse à l'appel de Dieu. Donc, si je réponds à son appel, je suis en train d'exécuter des choses, peut-être qui ne semblent pas spirituelles au moment où je le fais, mais c'est spirituel parce que je suis en train de répondre à son appel. Puis Dieu me dit de faire telle ou telle chose. Peu importe la chose. Ça fait que ça, c'est important parce que là, on va se sentir valorisé même dans ce qu'on fait parce qu'on sait que ce n'est pas simplement un travail minime, mais c'est quelque chose qui vaut cher parce que peu importe ce que je fais, c'est en réponse à ce que Dieu m'a demandé de faire. C'est ça qu'on a vu dans notre deuxième soirée. Et ce soir, l'école de la gloire 3, ce qu'on veut voir, c'est un peu notre héritage dans la gloire, ce que Dieu nous a donné dans sa parole. Puis je peux vous dire que les cours qu'on voit là, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était des choses assez de base. Et on va voir encore des choses qui ne sont pas compliquées, mais peu de chrétiens expérimentent. Parce que de un, la soif n'est pas nécessairement là. On n'a pas toujours soif de vivre ces choses-là. Et moi, je connais des gens qui ont suivi des cours où dans le sens, ils se réservent peut-être une fin de semaine. Ils vont passer une fin de semaine à entendre des enseignements sur la gloire de Dieu pour, à la fin de la fin de semaine, arriver à vraiment vivre des choses avec Dieu. Je trouve ça le fun que vous êtes là. Et puis, ce que vous apprenez ce soir, ou les versets que vous allez voir, moi, je crois que l'Esprit de Dieu est capable d'illuminer vos yeux pour recevoir des choses nouvelles. Dans notre vie chrétienne, on est toujours supposé de grandir, n'est-ce pas? Supposé de grandir, mais pourquoi on veut grandir? C'est pas simplement pour connaître des choses dans notre tête. Ça, c'est triste si on fait juste connaître plus de choses, mais ce qu'on veut faire, c'est vraiment connaître Dieu davantage. C'est vraiment arriver à cette place où on connaît plus le Seigneur. Et puis, on devient un intime de Dieu. Puis, vous êtes peut-être déjà là, puis vous dites, « Bien, moi, je suis déjà un intime de Dieu. Bien, gloire à Dieu. » Mais moi, je pense qu'on peut toujours vouloir s'approcher de Dieu. Moi, je ne suis pas satisfait, puis toute ma vie, je veux m'approcher du Seigneur. C'est parce que ce qu'on va voir ensemble un peu, c'est notre héritage de gloire. Et puis, avons-nous le droit de voir le royaume invisible de Dieu? On peut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment le droit? Est-ce que Dieu nous donne la permission de voir dans l'au-delà? Est-ce que c'est une chose possible pour nous? Et puis, une des choses que je voulais établir au tout début, quand on parle de la gloire, ce n'est pas une série de lois mécaniques. Des fois, on peut s'approcher d'un sujet biblique puis dire, OK, mais là, j'apprends les lois ou j'apprends le fonctionnement de telle ou telle chose. Puis des fois, on peut penser comme ça, on peut être intellectuel puis dire, OK, bien là, j'applique telle loi, une, deux, trois, bingo, je vis la présence de Dieu. Mais ce n'est pas du tout ça. Parce que quand on parle de vivre la présence de Dieu, on est en train de parler d'une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose qu'on peut apprendre et appliquer des lois pour vivre la présence du Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu. On parle de Dieu qui est supposé être notre meilleur ami. C'est qu'on parle de notre meilleur ami. En fait, c'est ça. C'est que c'est de vivre avec notre meilleur ami. En tout cas, il est censé être notre meilleur ami si on est un enfant de Dieu. Puis être toujours conscient que l'Esprit de Dieu est là avec nous, qui est en nous, on sait qu'il est en nous, mais en même temps, sa présence tangible peut être ressenti physiquement sur notre corps. Et ça, c'est une chose, même en le disant, je le sens. Ça fait que ça, c'est une des choses, vous pouvez ressentir la présence de Dieu sur votre corps. Des fois, la présence de Dieu va venir d'une façon pesante. Hein, il y a comme une pesanteur. Puis moi, la première fois que j'avais vécu la visitation de Dieu, quand je venais juste d'arriver en Alberta, la première chose que j'ai vécue, c'était une pesanteur. Puis je n'avais jamais vécu ça. Même si j'avais déjà tombé en esprit, j'avais déjà vécu des choses, mais je n'avais jamais vécu la pesanteur. C'est tellement pesant, je me demandais qu'est-ce qui se passait quand j'étais à terre, couché en esprit. Et puis, j'ai appris par la suite, OK, ben quand l'Esprit de Dieu vient, ça peut être vraiment pesant. On le ressent physiquement, là. Physiquement, vraiment une pesanteur. Et puis, c'est pour ça qu'on peut tomber en esprit. Parce que notre chair, notre corps trouve ça difficile même de supporter la pression. Ce n'est pas une mauvaise pression, ce n'est pas comme un joug sur nos épaules, pas dans ce sens-là, mais c'est vraiment la pesanteur de la présence de Dieu qui vient. C'est que ça, c'est des choses qu'on va voir un peu ce soir. Et puis, celui qui va nous guider dans notre expérience spirituelle, dans le monde spirituel de la gloire, c'est l'Esprit de Dieu. C'est qu'on veut se poser la question, est-ce qu'on attriste l'Esprit de Dieu dans nos vies? Parce que si on l'attriste, c'est sûr que ça va être difficile de ressentir la présence de Dieu. Est-ce qu'on est constamment en train d'attrister l'Esprit de Dieu? Et puis, le fondement de mon expérience avec le Saint-Esprit, le fondement va toujours être la foi dans la parole. C'est biblique, mais ce que je veux voir avec vous aussi, c'est le fondement de mon expérience, ça va être un fondement de foi. C'est-à-dire que si je prie pour vivre quelque chose avec l'Esprit de Dieu, bien, il faut que je sois dans la foi que je vais vivre quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui sont constamment dans l'état d'une prière. « Oh, Esprit de Dieu, je veux vivre quelque chose avec toi. » Et puis, on est là. On s'attend que peut-être le Saint-Esprit va décider de venir nous rencontrer. Puis souvent, on est toujours comme un jour, peut-être, je vais vivre quelque chose avec Dieu. Puis on n'est pas du tout connecté spirituellement. Par exemple, si on est en train de prier, puis vous passez votre temps à examiner comment les gens prient, vous êtes totalement déconnecté et vous ne recevrez pas de Dieu. C'est sûr. Si on est là, puis pendant que nous, on prie, vous êtes là en train d'examiner comment telle personne prie. Ah, cette personne-là fait ça quand elle prie. Il y a des gens comme ça qui peuvent examiner les gens pendant qu'on prie. Bien, vous ne recevrez pas de Dieu parce que vous n'êtes pas connecté avec Dieu. Vous êtes connecté avec le monde extérieur. Mais ce qu'on veut, on est des esprits, on habite un corps, on possède une âme, mais notre esprit peut connecter avec l'Esprit de Dieu. Puis c'est ça qu'on veut faire dans la prière. C'est que notre foi, pour notre expérience avec l'Esprit de Dieu, c'est vraiment le fondement pour toute expérience. Mais c'est une foi biblique. Puis on peut aussi avoir la foi que ce qu'on va vivre vient de l'Esprit de Dieu parce qu'on demande à l'Esprit de Dieu de vivre ces choses-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que si quelqu'un vit quelque chose dans la présence de Dieu, puis après se pose la question, mais peut-être c'était ma chair, peut-être je me suis imaginé cette chose-là, bien, avez-vous cru quand vous avez demandé à l'Esprit de Dieu de vivre telle chose? Si vous avez cru que vous avez demandé à l'Esprit de Dieu de vivre cette chose-là et vous vivez quelque chose, pourquoi vous remettez-vous en question que c'est peut-être votre chair? Ça veut dire que quand vous avez prié, vous n'avez pas prié dans la foi, vous avez prié dans le doute que peut-être Dieu ferait quelque chose. Me suivez-vous? Bon, OK. Ça veut dire qu'acceptez-vous la liberté spirituelle dans la gloire aussi. Pour vivre la gloire de Dieu, on doit faire en sorte que notre Dieu est plus grand que notre boîte qu'on définit par nous-mêmes. Parce que des fois, on va dire, bien là, Dieu peut agir de telle ou telle façon dans ma vie, puis il n'a pas le droit de sortir de sa boîte. Bien, finalement, vous ne vivrez rien avec Dieu aussi. Et puis, les bénéfices. Quels sont les bénéfices de vivre la présence de Dieu puis la gloire de Dieu? Bien, c'est des vacances spirituelles. C'est des vacances aussi. Parce que quand on est fatigué physiquement, bien, spirituellement, Dieu peut venir nous rafraîchir. Puis c'est des vacances parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de résistance. Dans notre monde, il y a un combat spirituel. On est dans une guerre spirituelle. Il y a toutes sortes de combats. Mais quand on connecte avec Dieu, puis on vit des expériences avec Dieu dans le domaine de la gloire de Dieu, il n'y a plus de résistance parce qu'au ciel, il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de résistance pour l'enfant de Dieu. C'est-à-dire que si on vivait plus la gloire de Dieu, il y aurait moins de dépression. Parce qu'on serait toujours rafraîchi. J'ai su, en tout cas, dans une réunion à Bâton Rouge, le frère Swigert, il disait, dans une réunion, il disait, autrefois, les pentecôtistes étaient habituellement toujours joyeux. Il dit, mais là, depuis des années, parce que les gens se tournent vers la psychologie, les gens sont en dépression. Parce que la psychologie ne peut pas répondre aux besoins de l'âme. C'est-à-dire que si on ne loue plus le Seigneur, on ne prie plus en esprit, on ne vit plus la présence de Dieu, puis on se tourne vers le bras de la chair qui ne peut pas nous aider, on ne vit pas le rafraîchissement surnaturel. On ne vit pas la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il y a autant de dépression dans nos milieux, autant de gens écrasés, parce que ce n'est pas Dieu qui fait quelque chose dans leur vie. C'est l'homme qui essaie d'aider l'homme, puis l'homme ne peut pas aider l'homme, véritablement. Il ne peut pas guérir l'âme. C'est-à-dire que voilà un petit peu des choses qu'on va voir ensemble, puis on va commencer avec un mot de prière. Êtes-vous prêts? Amen. Père éternel, on te remercie encore une fois. On te remercie, Seigneur. Hey, j'ai déjà prié, je pense. J'ai déjà prié. Ben, j'avais le goût de prier encore. Bon. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence qui est dans cette place. Merci pour les choses qu'on va vivre ensemble. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. OK, on va aller dans Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 7. Je vais vous lire dans la Bible du Semeur. Et puis, on va lire aussi dans la Bible Louis II. On est habitué à la Bible Louis II. Éphésiens chapitre 2 et le verset 5 et 7. Je vais commencer dans la Bible du Semeur. Il est écrit. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Là, je vais vous lire dans la Bible Louis II, dans Éphésiens 2, et puis on va aller encore une fois versets 5 à 7. Je vais commencer au verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire qu'on a tous compris ça. Ça, c'est l'Évangile. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous croyez ça? Ensuite, bon, là, on a vu, nous sommes sauvés. Mais la prochaine chose, au verset 6, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voyez-vous ça? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et puis, on pourrait développer ça énormément, mais si on s'arrête ici au verset 6, il nous a ressuscités ensemble, donc on n'est plus mort spirituellement, mais on est vivant à cause de Christ, spirituellement vivant, et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Mais là, vous dites, mais moi, je suis assis présentement ici dans une classe EVQ et puis je ne me vois pas assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bon, mais là, on peut dire, oui, mais ça, c'est notre position en Christ. On est spirituellement en Christ, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais ici, ça nous dit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Vous êtes assis dans les lieux célestes. Mais là, vous dites, bien, moi, ce que je vois devant moi, c'est un bureau, puis je ne vois pas rien de très glorieux dans cette classe. Hein? C'est rien de très glorieux. Mais là, c'est parce que vous êtes en train de regarder avec vos yeux de la chair, les yeux humains. C'est-à-dire que là, on se voit juste dans terre à terre, on peut frapper sur le bureau, puis dire, bien, c'est ça qu'on vit avec Dieu. Puis un jour, quand on va mourir, peut-être on va vivre quelque chose de surnaturel avec Dieu. C'est comme ça. La majorité des chrétiens, on se dit, bien, oui, c'est vrai que c'est notre position en Christ. Certainement, on est assis avec Christ dans les lieux célestes, dans notre position en Christ. Mais est-ce que ça se peut qu'on va vivre une expérience à cause de notre position en Christ? Ou devons-nous attendre d'être morts? C'est ça la question ce soir. Devons-nous attendre quand on va mourir? Quand on va mourir, là, on va vivre quelque chose dans les lieux célestes. Mais d'ici ce temps-là, on doit se satisfaire juste au fait que dans notre position en Christ, on est dans les lieux célestes. Puis c'est ça qu'on veut voir. Ce que Dieu nous révèle nous appartient. Sauf que si l'Esprit de Dieu vous révèle des choses ce soir, ça va vous appartenir, puis vous allez le vivre. Moi, ce que j'ai vécu en 2004, c'était quelque chose de souverain où l'Esprit de Dieu a fait quelque chose dans ma vie. C'est une chose inattendue. Moi, je n'avais pas prévu quoi que ce soit. Je n'avais pas prévu de vivre cette expérience-là. Mais j'ai vécu quand même ce qu'on peut voir ici dans le texte, quelque chose de spirituel, de surnaturel. Puis là, on peut se dire, moi, si je suis un enfant de Dieu, est-ce que je peux arriver à vivre quelque chose de surnaturel dans les lieux célestes avant de mourir? Ça, c'est intéressant. Parce que la majorité des chrétiens ne se posent pas la question. On se dit, ben, là, on vit notre vie chrétienne, on va à l'église, on fait notre routine chrétienne. Mais pourtant, si on est des créatures spirituelles, puis on a un héritage en Christ, est-ce que ça se peut que Dieu veut qu'on touche à cet héritage-là avant de mourir? Mais pensez-y, moi, ma grand-mère qui est décédée est déménagée au ciel. Mais ce qu'elle voulait faire, elle voulait nous bénir pendant son vivant. Elle était comme ça, Grandma Spinks, elle voulait nous bénir pendant son vivant. Elle ne voulait pas nous laisser un héritage juste après sa mort. Elle voulait qu'on puisse en bénéficier pendant qu'elle vivait. Mais notre Dieu aussi, je pense qu'il souhaite qu'on vive des choses dans le spirituel avant même de passer par le chemin de la tombe. OK, c'est que la première chose qu'on voit, on est tous d'accord que spirituellement, on a un héritage en Christ, puis on est assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est notre position, mais on a posé la question, est-ce que ça se peut qu'on va vivre autre chose aussi? Avons-nous le droit maintenant, on va se poser la question, avons-nous le droit de voir le royaume invisible de Dieu? Si vous êtes assis dans les lieux célestes, pensez-y pendant quelques instants, vous êtes assis dans les lieux célestes, pensez-vous que dans cette position-là, avez-vous le droit de voir quelque chose dans le ciel aujourd'hui avant de mourir? Venez avec moi dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 19. Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 19. C'est dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Là, c'est beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. On va le relire. Bon, c'est que l'apôtre Paul, il dit ici, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. » Bon, c'est que l'apôtre Paul, lui, il est vraiment content de ces frères-là. Puis il dit, « Ben, je rends grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Jusqu'à présent, vous avez compris ça, pas trop compliqué. L'apôtre Paul est content de la vie spirituelle des gens à Éphèse, dans l'Église ici. Puis là, il prie pour eux. Mais quelle est la prière de l'apôtre Paul? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. C'est-à-dire qu'ici, on parle, il prie ici que le Père de gloire fasse quelque chose pour ces chrétiens-là, qui ne sont pas morts en pensant. Okay, les chrétiens, les Éphésiens, les gens à Éphèse, c'est des vivants, n'est-ce pas, au moment où ce texte-là avait été écrit. Voici sa prière. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, donc la connaissance divine. Et qu'il, en parlant de Dieu le Père, le Dieu de la gloire, que le Dieu de la gloire illumine les yeux de votre cœur. Puis quand on parle « illumine les yeux de votre cœur », on parle ici des yeux de votre esprit. Quand on parle de votre cœur, on parle de votre esprit. Ça fait qu'ici, l'apôtre Paul dit « moi, je prie que les yeux de votre esprit puissent voir, dans la connaissance, bien sûr, du Père. » là. Mais je vais le reprendre. Si on prend le temps de s'arrêter là, puis d'examiner un texte, c'est là où on va voir plus de richesse. Bon, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, il y a un but là, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. On a un espoir, nous les vivants, les enfants de Dieu, on a un espoir. Puis Dieu veut qu'on puisse le savoir et la façon qu'on va savoir, c'est si Dieu illumine nos yeux de notre cœur. Mais les yeux de notre cœur, c'est les yeux spirituels, les yeux de notre esprit. Donc, on est un esprit, on habite dans un corps, mais 99,9% du temps, on se sert juste de nos yeux charnels humains. On se sert juste de ces yeux-là, on ne se sert pas de nos yeux spirituels. C'est comme si on a oublié qu'on était un esprit. On est juste un être humain, on habite dans un corps, puis on est totalement terre-à-terre. Mais en réalité, la vraie personne que je suis, que vous êtes un esprit. Puis Dieu vous a donné une vision spirituelle. Mais ça donne quoi, cette vision-là? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné une vision spirituelle? Bien, on va le voir ensemble. Mais la prière, qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre esprit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Imaginez, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Croyez-vous, il y a plein de choses, là. On a plein d'espoir en Dieu. La parole de Dieu est remplie de promesses, plein de choses qu'on peut s'attendre. Mais croyez-vous que notre espoir ultime, c'est de rencontrer Dieu un jour, puis de passer l'éternité avec lui dans le ciel, d'aller au ciel, certainement. C'est-à-dire qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. On a déjà vu, dans Éphésiens 2, que notre héritage concerne notre position en Christ, qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais là, on le voit ici. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Si moi, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, spirituellement, ça, c'est mon héritage. Puis je sais que plus tard, quand je vais être enlevé, soit que je vais être enlevé ou je vais mourir, c'est sûr que je vais toujours vivre la présence de Dieu chaque moment de ma vie. Mais là, ici, la prière de l'apôtre Paul, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Donc, si on peut avoir les yeux spirituels ouverts, on va commencer à voir plus la grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Puis ça ne vient pas de notre force. Là, cette fois-ci encore, c'est la force qui vient de Dieu. Bon, c'est-à-dire que là, on a posé la question, avons-nous le droit de voir le royaume invisible de Dieu? Mais si l'apôtre Paul priait pour que nos yeux spirituels ou les yeux spirituels de ces gens-là puissent s'ouvrir, bien certainement, c'est pour que ces gens-là, que ces chrétiens-là puissent voir spirituellement, que les yeux de votre esprit puissent s'ouvrir, être illuminés. Bien, quelque part, c'est pour qu'ils puissent voir. Est-ce que ça fait du sens, ça? Oui, moi, je trouve que ça fait du sens. Et qu'envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Puis encore une fois, nous qui croyons, ça nous parle de la foi. Quelqu'un qui dit, ben Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour que je vois quelque chose de toi, mais qui ne croit pas, ben il vivra encore rien. Parce que la foi est toujours là. C'est qui va nous révéler des choses? C'est l'Esprit de Dieu. Si je vis une expérience avec Dieu, puis je cherche toujours Dieu, mais si je cherche à vivre quelque chose avec Dieu, je m'attends qu'en priant, que l'Esprit de Dieu qui est là, qui m'a été envoyé pour habiter en moi et être mon consolateur, être toujours, qu'on dit en grec, paraclete, celui qui est à côté de moi tout le temps, mais je m'attends qu'il va me guider dans des expériences spirituelles si mes yeux s'ouvrent, si je commence à vivre des choses avec Dieu dans la prière. Et là, il y a des gens qui vont dire, ah ben je crois que ces choses-là concernent seulement notre position en Christ, puis je ne pense pas qu'on peut rien vivre aujourd'hui dans le monde spirituel. C'est simplement une chose qu'on va vivre un jour quand on va mourir. Bien, si vous croyez ça, vous faites monter au ciel quand même. Hein? Mais Moi, je crois que si l'apôtre Paul priait des prières comme ça, c'est pour qu'on puisse l'expérimenter. Puis c'était pas juste pour les gens à Éphèse, mais c'est pour nous aussi, que nous aussi, on peut vivre des choses avec Dieu. Et un autre texte qui nous le prouve, si, admettons, on est assis avec Christ dans les lieux célestes, et on se dit, bien, est-ce que moi, j'ai le droit de voir des choses dans la dimension de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, quand je prie? Puis je demande à l'Esprit de Dieu, montre-moi ce que tu veux, Seigneur. On ne demande pas, je veux voir ci, je veux voir ça, ou dicter à l'Esprit de Dieu ce qu'on veut voir. C'est pas ça. Mais on a une relation avec Dieu, puis je demande à Dieu, Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Esprit de Dieu, je veux que tu me révèles ce que toi, tu veux me révéler. Puis là, j'ai la foi que l'Esprit de Dieu va me révéler des choses. Mais là, on peut se poser la question, ouais, mais est-ce qu'on a vraiment le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de demander à Dieu de vivre des expériences avec lui? Non seulement est-ce qu'on a le droit, mais dans Hébreux 4:16, un texte qu'on connaît tous bien, ça dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Donc, on a ici la parole qui nous dit « Approchons-nous ». Donc, approchons-nous de Dieu, approchons-nous du trône de la grâce. On a le droit. Puis c'est comme j'ai déjà dit, mes enfants ne me demandent jamais s'ils ont le droit de prendre quelque chose dans le congélateur, dans le frigidaire ou dans l'armoire. Ils peuvent se servir comme ils veulent parce que mes deux filles sont mes enfants, puis ils ont le droit de se servir comme ils veulent, n'est-ce pas? Comme elles veulent, puis avec nous, dans le corps de Christ, c'est comme on a toujours l'impression, bien, le ciel, c'est pour un jour, mais je ne peux rien vivre avant de mourir. C'est un jour, puis on a quasiment l'impression qu'on n'a pas le droit de rien vivre avec l'Esprit de Dieu, mais que c'est juste toujours pour plus tard. Mais imaginez quand Jésus marchait sur la terre puis faisait du ministère, il disait toujours qu'il faisait ce qu'il voyait son père faire puis ce que son père lui disait. Croyez-vous que Jésus avait possiblement des expériences où l'Esprit de Dieu lui révélait des choses, que le Père lui disait « c'est ça que tu vas faire là, aujourd'hui ou demain matin. Il y a telle personne que tu vas voir qui porte un gilet rayé et c'est cette personne-là que tu vas, pour qui tu vas prier et tu vas guérir cette personne-là. » Moi, je crois qu'il vivait des moments comme ça avec Dieu. On peut dire « oui, mais Jésus était Dieu ». Mais Jésus a toujours travaillé, quand il travaillait sur la terre, il travaillait toujours sous l'inspiration et l'onction du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille à travers lui. Donc, nous, on est censé faire les mêmes choses que Jésus a faites. On a le même Saint-Esprit. Et puis là, c'est une des choses qu'on veut comprendre aussi, c'est que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous dirige dans notre temps de prière et dans notre communion avec Dieu. En fait, on est censé avoir une communion avec l'Esprit de Dieu. Dans Romains 8, 14, ça dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ou si on veut, les fils de Dieu sont dirigés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si moi, je suis un enfant de Dieu, dans mon temps de prière, tous ceux qui sont conduits ou dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bon, tous les fils de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Puis on prend ce texte-là pour parler de la direction de Dieu pour les décisions dans nos vies. Par exemple, si on s'achète une maison, si on va à l'école, peu importe, on demande à l'Esprit de Dieu de nous diriger. Puis c'est vrai, c'est comme ça aussi. Mais ce n'est pas juste limité dans les décisions de la vie comme ça. Mais je crois, et c'est vraiment pour tout. Dans notre vie, si on a une communion avec Dieu, même dans notre temps de prière, l'Esprit de Dieu veut nous diriger, même dans nos temps de prière. Ça, je crois ça. Puis c'est ça qu'on a besoin de faire, être sensible au fait, puis être allumé, que l'Esprit de Dieu veut nous diriger dans nos temps de prière, mais pas juste dans les requêtes, mais dans notre expérience, ce qu'on va vivre avec lui. Puis moi, j'ai déjà prié. Puis là, je priais en esprit ou j'étais sur mon ballon d'exercice comme d'habitude, puis j'étais là en train de prier. Puis là, l'Esprit de Dieu, après avoir prié des choses comme je vous parle ici, « Esprit de Dieu, montre-moi ce que toi tu veux que je vive. » Tu sais, je te suis, là, c'est toi qui me dirige. Puis là, l'Esprit me montrait des choses dans l'au-delà, dans la gloire. Puis là, il me donnait des séries de visions. Et puis c'est comme ça, quand on parle que nos yeux spirituels sont illuminés, on parle ici d'avoir des visions de Dieu, de la part de Dieu, puis on peut vivre, même voir le ciel. Avant de mourir, on est là, on prie, puis là, Dieu nous montre des choses. Puis on peut même avoir des choses, des révélations du ciel, puis après avoir une conversation avec l'Esprit de Dieu et dire, Esprit de Dieu, quand tu me dis ça, c'est pour quelle raison ou qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de telle chose? Et là, l'Esprit de Dieu peut vous dire, mais là, tu vas aller voir tel verset dans la Bible. Puis après, après notre temps de prière, on peut revenir puis dire, OK, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me disait? Puis c'est vraiment une conversation complète qu'on a eue avec Dieu puis des choses, on le sait à 100% que c'est surnaturel, que c'était une vraie expérience dans la présence de Dieu, parce que les révélations qu'on reçoit sont impossibles humainement. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais les choses que j'ai vécues dans le temps de prière, avec des séries de visions que j'ai pu recevoir, c'est des choses que je ne pouvais pas imaginer humainement. Parce que les réponses que j'avais aussi, en plus, prouvaient que ça ne venait pas de moi. Mais pour vivre cette dimension-là, de un, il faut réaliser qu'on est une créature spirituelle, qu'on est spirituel. La majorité des chrétiens ne croient même pas ça, ou ils ne savent même pas. Ils ne savent pas qu'on est une personne en trois parties. Hein, l'esprit, le corps et l'âme, on ne réalise pas nécessairement qu'on est comme ça. Donc, on pense que la prière, c'est juste un temps où on demande à Dieu de faire des choses. Donc, pour nous, on a limité notre vie de prière aux requêtes. En gros, c'est ça. La vie de prière, c'est des requêtes. Puis, la majorité du temps, c'est des requêtes qui ne sont même pas vraiment dans la foi parce qu'on a plein de doutes dans nos prières. Sauf que même là, ce n'est pas trop fort. Mais, c'est que la prière, ce n'est pas juste des requêtes. C'est d'être en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est de vivre une expérience avec Dieu, littéralement. Là. C'est pour ça que si on approche le sujet de la gloire de Dieu, puis OK, voici 1, 2, 3, bingo, j'arrive à vivre quelque chose avec Dieu, on n'approche pas du tout le sujet, si on veut, d'une bonne façon. Mais il faut vraiment comprendre, c'est une façon où on va vivre notre relation avec Dieu. On va vivre, expérimenter Dieu dans la prière. Donc, une autre chose, dans Jean 14, 26, elle dit « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais l'Esprit, bon, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » L'Esprit de Dieu veut vous enseigner. Il veut vous parler. Et c'est ça qui est merveilleux. On peut vivre toutes sortes d'expériences avec l'Esprit de Dieu. Puis je vous souhaite de vous positionner dans la foi pour vivre des choses avec Dieu. Bon, moi, dans ma vie, j'ai eu des visions depuis que je suis jeune. Même quand j'étais plus petit, j'ai pu voir des choses comme ça. Mais l'Esprit de Dieu travaille de façon différente. Hein? Avec nous tous, il y a des personnes qui ont d'autres cadeaux que Dieu leur donne. Mais peu importe, moi, je crois, si on a la prière qui est là dans Éphésiens, qui dit qu'on peut demander à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels, moi, je crois que c'est pour tout le monde, ça. Que ce n'est pas limité pour une catégorie de gens, mais on peut tous vraiment voir comme ça. Mais là où on a vraiment besoin d'arriver, c'est croire vraiment que Dieu va le faire. J'aimerais quasiment ça vous demander, combien d'entre vous, sans vous gêner en levant la main, combien d'entre vous, vous croyez que l'Esprit de Dieu vous a déjà donné une vision en levant la main? Vous avez déjà eu une vision? Bon, c'est bien. Bon, si vous n'avez jamais eu, bien, croyez-vous que l'Esprit de Dieu veut vous en donner des visions? Oui, mais c'est ça, je crois. Moi, je pense que beaucoup de choses qu'on ne vit pas, là, c'est vraiment simple. La vie chrétienne, bon, ce n'est pas nécessairement toujours simple parce qu'on peut avoir de l'opposition, mais notre expérience avec Dieu, c'est une expérience avec notre meilleur ami. Puis vivre une amitié avec Dieu, c'est quelque chose qui est juste merveilleux. C'est pas compliqué. Sauf que oui, on peut décortiquer plein de choses puis connaître Dieu mentalement. Puis là, ça peut devenir compliqué. Mais juste vivre avec Dieu, puis le connaître, puis passer du temps avec lui, c'est pas compliqué. C'est de l'aimer. C'est d'aimer Dieu. C'est d'aimer sa présence. Puis c'est d'aimer aussi le sentiment qu'on a. Je parlais avec ma femme hier. Bon, dimanche, moi, j'ai pas ressenti la présence de Dieu énormément. Dans ma prédication, j'ai prêché, mais j'ai dit, je ne sentais vraiment pas grand-chose. Puis il y a d'autres temps où je sens la présence de Dieu qui descend d'une façon très, même physiquement, je ressens la présence de Dieu. Mais ça, c'est un dimanche. Un dimanche, après un autre dimanche, je ne sens pas nécessairement la même chose. Puis une enseignante qui a parlé beaucoup de la gloire de Dieu a vécu un temps comme ça, mais elle, c'était plus long, c'était 6 mois où elle ne ressentait pas du tout la présence de Dieu. Puis elle a demandé au Seigneur, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Puis Dieu a dit, je veux que ta foi soit pas dans ce que tu ressens, mais que ta foi pour l'expérience de la gloire soit fondée dans la parole de Dieu. Il dit, parce que j'ai été souvent avec toi, mais il a permis qu'elle vive quelque chose où sa foi pouvait se développer à vraiment croire que Dieu est avec elle, même si elle ne ressentait rien. Mais là, ma femme me dit « Ah, ben peut-être c'est ça que Dieu veut t'enseigner. » J'ai dit « Non. » J'ai dit « Dieu ne veut pas m'enseigner ça. » J'ai dit « Là, je veux vivre la gloire de Dieu puis je veux sentir sa présence tout le temps. » Tu as enseigné à cette femme-là, je peux apprendre de son expérience. Hein? Mais ce que moi, j'ai vécu dimanche passé, où je n'ai pas vraiment ressenti énormément la présence de Dieu, bon, mais notre frère Patrick, par exemple, lui, il a vécu quelque chose avec Dieu. Lui, il était même presque sous dans l'esprit. Il m'a dit ça, il a pris, je pense, 3 heures à revenir sur terre. Mais pourquoi? L'esprit de Dieu l'a touché. Bon, puis moi, peut-être que l'esprit de Dieu était sur lui, pas sur moi. Non, mais c'est ça, on peut se dire. Mais comment ça? Patrick, il dit, aïe, pendant 3 heures, il était pratiquement sous dans l'esprit. Puis on parle d'être sous dans l'esprit, on parle ici, c'est pas une mauvaise chose. On parle ici de sentir la présence de Dieu, puis la présence de Dieu est tellement forte sur nous qu'on a du mal à être normal, si on veut. On n'est pas juste dans le terre-à-terre, mais on vit quelque chose spirituellement qui affecte même notre corps, puis notre raisonnement. Comme il disait, il avait du mal à raisonner parce qu'il était tellement comme perdu dans la présence de Dieu. Puis ça, c'est une bonne chose. Puis il me dit, ça a pris 3 heures avant de revenir pour pouvoir fonctionner. Bon, ben je dis gloire à Dieu pour lui. Bon, moi, je n'ai rien vécu de spécial, mais ça ne change rien. Ma foi aussi doit être là que l'Esprit de Dieu est avec moi, que je ressente quelque chose ou non. Parce qu'il y a des gens qui ont sorti de la réunion qui avaient été vraiment rencontrés par l'Esprit de Dieu, puis j'ai eu des témoignages sur ce que Dieu a fait dans leur vie. Moi, je n'ai rien senti. Mais ça ne change rien. L'Esprit de Dieu était là quand même. Mais aussi, ça peut être un piège. Quand je ressens l'Esprit de Dieu, Dieu est là. Puis si je ne ressens pas, Dieu n'est pas là. Ça, c'est un piège aussi. Parce que là, je peux être dirigé par mes émotions puis mes sentiments. C'est-à-dire que ma foi, il faut vraiment qu'elle soit dans la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il ne va jamais m'abandonner ou me délaisser. C'est que je sais que Dieu est là. Mais en même temps, je veux être tellement proche de lui que je le ressens. Moi, j'aime ça, le ressentir. Puis je pense qu'on veut tous ressentir la présence de Dieu. Donc, ça peut sembler contradictoire, là, mais ça ne l'est pas. Je pense que vous pouvez peut-être me comprendre. C'est qu'on veut vivre la présence de Dieu puis on veut se positionner pour le vivre. Mais là, ça fait qu'on se dit, OK, si on a un héritage en Christ, le ciel est notre portion, ça nous appartient, on le sait, tous les chrétiens de toutes les églises de cette région seront en accord, quand on meurt, on va au ciel. Tout le monde serait d'accord. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est qu'avant de mourir, vous pouvez aller au ciel. Mais comment? C'est dans la prière. En priant et en laissant l'Esprit de Dieu vous montrer ce qu'il veut. En fait, c'est ça. C'est si vous priez, et vous êtes ouvert à ce que l'Esprit de Dieu vous montre des choses, il va le faire. Mais si on n'est pas dans la foi pour ça, ça peut être plus difficile. Mon expérience que j'ai vécue en 2004, moi, je peux vous dire, je n'ai pas eu un soir comme vous avez ce soir-là. Je n'ai pas eu d'enseignement là-dessus. Moi, ce que j'ai vécu, c'était souverain, où l'Esprit de Dieu a décidé de mettre son doigt, bingo, cette journée-là, puis j'ai vécu quelque chose comme ça. Mais par après, j'ai découvert qu'on peut retourner à cette place où on a vécu une visitation. Parce qu'il y a une porte ouverte pour nous, pour les enfants de Dieu. Une porte ouverte au ciel. Mais ici, quelqu'un pourrait dire, mais là, ce que je suis en train d'imaginer des choses. Comme j'ai dit au tout début, si vous êtes en train de prier puis vous demandez, Esprit de Dieu, montre-moi ce que tu veux que je vois ou conduis-moi dans ce que tu veux. Et là, le Seigneur va commencer à vous révéler des choses. Il va commencer à vous montrer des choses. Et le Seigneur va se confirmer aussi après. Vous allez voir. Mais c'est toute une question de foi. Mais là, une des choses qu'on veut juste enlever, une des choses importantes, si on veut vivre la présence de Dieu, on veut que le Seigneur se révèle à nous, on veut s'assurer de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Puis ça pourrait être évident pour la majorité. On dit, bien ça, c'est clair. Mais pourtant, on peut l'attrister de bien des façons. Je vais vous inviter à venir avec moi dans Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30, dans la Bible du Semeur. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et une des façons, bon, la description qu'on a ici, c'est ne soyez pas charnel finalement. Si on est charnel et on vit dans le péché, comme ici, être dans la colère, irritable, rempli d'insultes, bon, ces choses-là vont attrister l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent vivre leur vie chrétienne, venir à l'Église, vivre la gloire de Dieu constamment. Ils viennent le dimanche, mais toute la semaine, ils passent leur temps à se chicaner avec leur épouse ou leur époux. Ils sont en guerre à la maison, mais dimanche matin, je m'attends de vivre la gloire de Dieu. Puis si je ne vis pas la gloire de Dieu, ben ça doit être la faute du pasteur. Ça ne se peut pas que toute ma semaine, quand je me chicanais avec ma femme ou mon mari, que ça ait un impact là-dedans. Là. Je suis sarcastique. Hein? Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que si je vis constamment dans la frustration, je suis aigri de la vie, je suis irritable, je suis en colère. Et là, dimanche matin, bon, ben là, on va louer le Seigneur. Puis là, je m'attends à vivre la gloire de Dieu. Bien, on attriste le Saint-Esprit constamment dans notre vie. Comment peut-on s'imaginer que l'Esprit de Dieu va vraiment, tu sais, se manifester dans nos vies? On est en train de l'attrister, on est en train de le repousser par notre vie. C'est-à-dire que si on veut vivre la présence de Dieu, la première chose qu'on veut faire, c'est ne pas l'attrister. Il faut vraiment se repentir. Si on vit dans ces choses-là, se repentir puis être conscient que l'Esprit de Dieu est sensible puis on veut être sensible à l'Esprit de Dieu. Aussi, une autre chose, c'est que, comme j'ai dit, la foi, c'est le fondement de notre expérience avec le Saint-Esprit. Dans Marc 11, 24, un texte qu'on connaît bien, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » C'est-à-dire que croyez que vous l'avez reçu, à quel moment? Tout ce que vous demanderez en priant. C'est-à-dire qu'il faut que je sois dans la foi quand je prie pour que Dieu se révèle à moi. Et dans Hébreux 11, 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est-à-dire que je dois m'attendre à ce que Dieu va répondre à ma prière. Aussi, une autre chose, c'est-à-dire qu'on a dit, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit, il faut être dans la foi aussi, mais acceptez-vous de vivre quelque chose de nouveau ou de différent avec Dieu. Ça, c'est une autre chose. Parce qu'on dit, « Seigneur, je veux voir ta gloire. » J'écoutais un prédicateur cette semaine, et puis c'est le petit-fils des Swaggart, Gabriel Swaggart. Il disait qu'à chaque mois, il reçoit au moins une lettre d'une personne qui va se plaindre parce qu'ils vont chanter un chant pendant une demi-heure, par exemple. Admettons, ils sont en train de louer le Seigneur, puis là, l'Esprit de Dieu descend pendant un chant, puis là, ils vont chanter un chant à répétition pendant une demi-heure, peu importe le chant, mais là, on voit la chorale, les chanteurs, tout le monde loue le Seigneur, puis ça ne l'arrête pas. Pendant une demi-heure, ils vont chanter un seul chant. Puis il dit à chaque fois, il va y avoir des gens qui vont écrire pour dire, « Mais coudonc, pourquoi vous répétez toujours les mêmes chants? » Parce que des fois, dans notre tête, bien là, on le fait 3-4 coups. Une fois, j'étais dans une assemblée, on m'avait demandé de conduire les chants. On dit, « Là, ici, je sais, toi, tu viens du monde pentecôtiste, là, ça fait que, je sais, vous répétez sans cesse pour rien, mais ici, pas plus que 3 fois après, ça, il faut aller au prochain chant. On m'avait dit, admettons, les réunions commencent à 9h le matin. À 9h, tu vas chanter un chant sur l'amour entre conjoints. 9h02, ça va être un chant sur tel thème. 9h03, c'est un chant sur un autre thème. Puis là, j'étais comme, ben, c'est tellement, je voulais vraiment être respectueux à l'époque. J'ai dit, ben, je veux vraiment respecter ce que vous dites, mais j'ai peur de dépasser les minutes que vous m'avez données comme cédule. J'aime mieux me retirer parce que j'ai peur de ne pas pouvoir me soumettre. Pas parce que je suis rebelle, mais j'ai peur de dépasser les minutes. Puis on dit, oh non, c'est correct. Tu n'es pas obligé de suivre ça à la lettre comme ça, mais en gros, c'est ça. Mais si on met Dieu dans une boîte comme ça, et admettons, on chante un chant une demi-heure, là, mais parce que l'Esprit de Dieu fait quelque chose, là, sommes-nous prêts à vivre quelque chose de différent le dimanche matin? Ou sommes-nous tellement dans notre boîte que ben là, les chants sont trop longs, là, c'est trop long? Ou si même un dimanche matin, il n'y a même pas de prédication, admettons, l'Esprit de Dieu descend parmi nous. Puis on fait juste louer Dieu. On fait juste l'adorer puis louer Dieu. Puis l'Esprit de Dieu fait un ministère par le chant. Sommes-nous prêts à le vivre? Ou sommes-nous trop dans une boîte? C'est pour ça que je pose la question. Acceptez-vous de vivre quelque chose de nouveau, de différent avec Dieu? Bon, mais moi, j'espère que oui. Hein? Parce que si on n'est pas prêt à vivre quelque chose de différent, on ne vivra rien de différent. On va vivre toujours la même chose. Puis vivre toujours la même chose, bien, tu finis par mourir. Hein? On s'éteint, puis c'est malheureux. Dans Ésaïe 43, versets 18 et 19, c'est dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Mais en gros, ici, ce qu'on peut voir, c'est que Dieu travaille différemment. Puis si on est dans un désert, bien, Dieu veut mettre des fleuves dans ce désert-là pour nous, spirituellement. Mais ça, c'est dans la gloire de Dieu. C'est ça qu'on peut vivre. Mais il faut se positionner dans la foi. Et quand on vient à l'église le dimanche matin, s'attendre que quand l'équipe de la louange, quand ils vont nous conduire dans la louange, on va vivre quelque chose avec Dieu. l'Esprit de Dieu va faire quelque chose. Il faut être comme ça, il faut être dans l'expectative. Il faut prier à l'avance. Même quand on arrive à l'église, on veut prier, Seigneur, fais quelque chose, viens nous visiter. Et quand, ça je me répète, puis je suis content pour tous les internautes de toutes les églises de la planète, quand vous allez à l'église, pensez pas, OK, là l'équipe de la louange, cette équipe-là doit me réchauffer pendant 25 minutes et là, peut-être les cinq dernières minutes, là, finalement, je vais commencer à louer Dieu. Ce qu'on devrait faire, c'est louer Dieu à chaque jour. À chaque jour, on devrait passer du temps avec Dieu et louer Dieu. Et quand on arrive le dimanche matin, c'est juste une continuité de notre vie de louange et d'adoration. Parce que si on louait tous le Seigneur constamment à la maison, bien, ce serait comme ça. On arrive le dimanche matin, on est tellement habitué de louer Dieu, on a passé du temps à la maison, louer, adorer, on arrive ensemble, collectivement, là, l'onction de Dieu descend. Parce qu'il y a une onction corporative qui est là, comme l'onction que moi, je peux vivre à la maison, que quelqu'un d'autre ici ce soir, on vit tous quelque chose avec Dieu. Et quand on est ensemble, là, c'est comme l'onction fusionne. Il y a comme une onction corporative qui est là dans la place, puis le ciel descend parmi nous, puis on vit la gloire de Dieu. Ça, c'est parce que si moi, j'ai eu une portion, j'ai eu une touche de Dieu, vous avez une touche, tout le monde ensemble, on vit une méga touche. Vous comprenez? Mais ça dépend de notre soif, puis on le dit à répétition, puis on va le dire jusqu'à temps que tout le monde ait vraiment compris. Mais si on a tous soif de Dieu, bien on va vivre la gloire de Dieu. Puis comme notre sœur Rulan a partagé, puis je l'ai envoyé aujourd'hui par courriel, la parole qu'elle avait reçue pour nous, là, bien c'est une exhortation vraiment que l'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose parmi nous. Puis elle discernait ça. Mais ça dépend tout le temps de nous. Est-ce qu'on veut plus? Est-ce que je veux vivre plus avec Dieu? Mais des fois, le plus, on ne sait pas c'est quoi. Des fois, il y a des gens qui disent, ben, qu'est-ce que je peux vivre de plus? Pourquoi prier plus? Pourquoi? Parce que si on se dit, mais qu'est-ce que je peux vivre de plus? C'est parce que je n'ai rien vécu nécessairement de plus, puis je n'ai peut-être pas soif, parce que je me dis, il n'y a rien d'autre. Je n'ai peut-être rien d'autre à vivre. Mais je peux vous garantir, on peut vivre beaucoup plus. Parce qu'il y a tout un monde spirituel que Dieu veut qu'on puisse expérimenter. C'est-à-dire qu'est-ce que je suis prêt à vivre quelque chose de nouveau? Si je dis non, bien c'est parce que je suis satisfait de vivre ce que je vis. C'est ça. Quelqu'un de satisfait, quelqu'un qui n'a pas soif, bien, il va dire, ben non, c'est beau là. Quatre chants, les annonces, une prédication, bingo, c'est fini. Bon, mais ceci dit, est-ce que c'est mal d'avoir des annonces? Non, est-ce que c'est mal d'avoir des chants d'organiser? Non, c'est pas mal. Mais si on peut avoir l'Esprit de Dieu qui envahit l'Église, c'est mieux. Amen? C'est-à-dire que moi, j'ai toujours cru, comme dans la parole, ça dit, il faut étudier, se préparer. Hein? Admettons, avant de prêcher, je vais prier, je vais me préparer, je vais écrire des notes. C'est bien, on a besoin de se préparer. On fait notre travail et c'est à partir de ça que le Seigneur va faire quelque chose à travers nos vies. Donc, on se prépare. Mais si l'Esprit de Dieu décide tout d'un coup, OK, mais le message que tu as préparé, c'est super, mais je t'ai laissé te préparer pour tel sujet que tu vas prêcher un jour, mais là, ce soir ou ce matin, c'est un autre sujet. Et là, c'est là qu'on ressent, c'est vraiment glorieux. Comme quand j'étais chez le pasteur Fofi, il y a quelques semaines, j'avais un message de préparer, mais comme j'étais dans la louange, l'Esprit de Dieu me dit, c'est telle prédication que tu vas prêcher. Tu vas prêcher sur tel sujet. Et là, le pasteur Fofi, pendant que moi je recevais ça, commençait à dire ce que j'avais entendu de Dieu. Dans mon esprit, Dieu me dit, tu vas prêcher tel sujet. Là, le pasteur Foufi répète toutes les paroles que l'Esprit de Dieu me disait. J'avais ma confirmation que c'est ça que le peuple de Dieu ici a besoin d'entendre. Bon, mais si j'avais dit, ouais, mais là, Seigneur, mes versets sont tout choisis, j'ai préparé mes notes, j'ai tout fait, mais regarde, Seigneur, c'est bien beau, mais je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça, puis on va essayer pour un autre moment. Là, je serais en train d'attrister l'Esprit de Dieu. C'est ça qui se passerait, là. Ce serait de mettre Dieu de côté. Mais imaginez si je faisais ça tout le temps, là. Puis si vous faites ça, bien, Seigneur, tu montes ça, mais regarde, je ne me sens pas à l'aise. Je suis trop gêné. Je ne suis pas assez en sécurité avec moi-même. Peu importe les raisons qu'on peut donner. Mais là, on attriste constamment l'Esprit de Dieu. Puis finalement, pensez-vous qu'on va vraiment couler dans l'onction constamment? Ça n'arrivera jamais parce qu'on ne se relâche pas du tout. On prend pas un pas par la foi. Mais moi, je crois de plus en plus, si on a soif et si on se positionne, même dans la louange à l'Église, on prie, puis on cherche la face de Dieu. Puis si on le vit dans la louange, c'est là où on va vivre d'autres choses, même dans la prédication. Si dans la louange, on arrive, puis je suis content que c'est enregistré parce que tous les frères de l'Assemblée vont pouvoir l'écouter. Mais si pendant la louange, on attend que ça finisse, on dit, bon, un chant de fini, deuxième chant, troisième chant, quatrième, cinquième, peu importe. OK, là, c'est fini. OK, là, on va pouvoir écouter une prédication. Si on est comme ça, bien, on passe à côté des moments vraiment précieux. Si j'arrive à l'église, puis je m'attends que la louange, que les gens dans la louange vont me divertir, que je m'en viens voir un concert, par exemple, je passe encore à côté parce que bon, je peux être un spectateur, mais Dieu m'appelle à être un adorateur. La différence entre être un spectateur et un adorateur. Si j'adore mon Dieu dans la louange, non seulement est-ce que je vais vivre quelque chose pendant la louange, mais même pendant la prédication, ça va changer la prédication. Parce que l'onction de Dieu est ressentie pendant la louange. Puis moi, qui va prêcher, ou peu importe celui qui prêche, ça va diriger même la prédication. Si c'est sec pendant la louange, bien là, c'est plus difficile de démarrer. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais quand c'est sec, c'est plus difficile. Mais imaginez si on décide tous de louer Dieu. Moi, ce que j'aime beaucoup chez les Africains, dans les églises, comme chez Pasteur Foufi, moi, j'aime vraiment ça. Ce que j'aime voir, c'est la louange où ça vient du cœur, du fin fond du cœur. Je ne vois pas des spectateurs. À eux vécu, ce qu'on a besoin de changer, on a besoin de multiplier le nombre d'adorateurs. C'est ça qu'on a besoin. Si on peut commencer vraiment à louer Dieu de tout notre cœur, je dis merci Seigneur pour ce qu'on a, mais je crois qu'en 2015, on a besoin d'aller à un autre niveau. Êtes-vous d'accord avec moi? Vraiment, là, louer Dieu. Que, tu sais, qu'on soit tous, puis ici, je crois qu'on est tous d'accord, mais chaque dimanche matin, là, on devrait venir remplir et donner notre portion, puis se déverser sur Dieu dans la louange, puis même si on ne le ressent pas. Au début, peut-être, vous dites, ben moi, je ne ressens rien. Mais dans la Bible, ça nous parle aussi de faire des sacrifices de louange. Même si on ne sent rien, puis ça, et en louant Dieu, on va finir par ressentir quelque chose. Imaginez. Ça, c'est une chose qu'on a besoin de vivre. Pour arriver à vivre la gloire dans l'Église, on a besoin de louer Dieu vraiment. Puis ça va venir, puis j'ai la foi. Mais une des choses que moi, personnellement, ce que je veux vivre différemment, je veux qu'on soit capable d'aller de gloire en gloire chaque dimanche. Pas de gloire à, mettons, les bon, 2 semaines de vacances de Noël. On recule de 2 mois, puis on recommence dans 2 semaines. Il faut arrêter d'aller de gloire à demi-gloire, de gloire à gloire 0.5. Comprenez ce que je suis en train de dire? On est supposé de progresser, toujours, aller toujours de plus en plus dans la présence de Dieu. Mais ça dépend toujours de notre soif. Mais vous avez soif, n'est-ce pas? OK, sauf que acceptez-vous, la question c'était acceptez-vous de vivre quelque chose de nouveau? Bon, puis si, vous, ici et ce soir, vous êtes tous d'accord, oui. Bon, mais pour quelqu'un sur Internet, je vous pose la question, acceptez-vous de vivre quelque chose de nouveau ou êtes-vous trop pris dans une boîte puis vous dites, ben Dieu ne peut pas agir de telle ou telle façon? Sauf que faut enlever ça, faut enlever les barrières à l'Esprit de Dieu si on veut qu'il agisse. Acceptez-vous la liberté spirituelle dans la gloire? Dans 2 Corinthiens 3, versets 16 et 17, ça dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le voile spirituel est ôté quand on devient un enfant de Dieu. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, Dieu nous appelle à vivre dans la liberté spirituelle. Ça, c'est des choses qu'on veut. Juste, c'est des choses de base. Là, pour vivre la gloire de Dieu, il faut être libre, spirituellement libre. Amen. Mais acceptez-vous la liberté spirituelle dans la gloire. Ceci dit, ça veut dire qu'on enlève nos barrières qu'on a dans notre tête. Il y a plein de barrières qu'on peut avoir. Mais si on dit, non, l'Esprit de Dieu peut travailler ce matin dans notre Église, mais pas juste ce matin, même chaque jour de ma vie. Vraiment être dans la liberté de l'Esprit. Puis là, une des choses, comme j'ai déjà mentionné, quand on a parlé de l'importance de ne pas marcher dans le péché puis de ne pas attrister Saint-Esprit, il y a certaines personnes que je sais, des fois, ils disent, « Bien, moi, j'aimerais ça vivre la gloire de Dieu. » Ça, c'est bien. Mais en même temps, si on veut vivre la gloire de Dieu, on ne peut pas mépriser notre prochain. Parce que ça aussi, ça va attrister l'Esprit de Dieu. Ou il y a d'autres personnes qui peuvent dire, « Ben moi, je veux vivre la gloire de Dieu personnellement, mais je vais mépriser ma femme. » Puis je vais vous lire un texte dans 1 Pierre 3,7. Ça dit, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi irrités avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Si c'est écrit, là, c'est pas pour rien, n'est-ce pas? Ça, c'est pas pour rien. Sauf que des fois, j'ai vu des gens qui disent, « Ah, moi, je veux vivre la présence de Dieu, mais là, ils vont parler à leur femme comme une moins que rien. » Puis là, ils s'attendent. Hey, je ne comprends pas pourquoi je ne vis pas la présence, pourquoi je ne vis pas la gloire de Dieu. Bien, si on attriste le Seigneur, l'Esprit de Dieu constamment, comme on a vu dans les autres versets, avec toutes sortes de péchés, on l'attriste. C'est sûr qu'on ne vivra pas grand-chose. Et encore plus si, admettons, notre épouse, on est en train de la mépriser constamment. Mais là, ici, on peut avoir des obstacles dans notre vie de prière, puis des barrières qui sont là. Si on veut vivre la présence de Dieu, il ne faut pas mépriser l'Esprit de Dieu, mais il faut accueillir l'Esprit de Dieu, il faut chérir sa présence, puis il faut s'attendre de vivre sa présence. Il faut s'attendre de vivre sa présence et être sensible à sa présence. Et là, si je voulais vous vendre l'idée de vivre la présence de Dieu, je vais terminer avec ce passage-là. C'est quels sont les bénéfices? On dit, OK, mais on parle beaucoup de vivre la gloire de Dieu. Quels sont les bénéfices pour ma vie, là, dans le tangible? Bien, même la question est peut-être spéciale, mais je peux vous dire qu'il y a des bénéfices même. Vivre la présence de Dieu. Comme j'ai dit au tout début, il n'y a pas de résistance au ciel. Quand vous êtes dans l'Esprit de Dieu, quand vous priez, et là, le Seigneur vous montre des choses, puis vous êtes dans une autre dimension spirituelle, c'est là où vous avez un congé de votre vie, terre à terre. C'est vraiment vrai. C'est là où vous avez un congé. Dans Éphésiens 6, versets 10 à 13, c'est dit, « Ô reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Si vous manquez de force, c'est dit, « Ô reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais dans les lieux célestes, ici, ça ne nous parle pas du troisième ciel. Ça nous parle juste dans l'atmosphère ici, là, qu'on peut vivre. Donc, dans notre monde, terre à terre, il y a des mauvais esprits partout, puis ils peuvent nous opposer. On peut vivre toutes ces choses-là. Mais quand je prie en langue. Là, je suis en train de connecter mon esprit avec l'Esprit de Dieu. Bien, je suis toujours connecté. De toute façon, l'Esprit de Dieu habite en moi, est sur moi. Mais quand je prie en langue, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je suis vraiment en train de connecter avec l'Esprit de Dieu. Puis c'est comme si je suis en train de faire un chemin. Je suis en train de me connecter. Tout ce que je peux vivre dans le monde naturel, je fais abstraction de tout ça. C'est comme, peu importe les démons qui peuvent être là. Premièrement, j'ai l'autorité au nom de Jésus, je peux les chasser. Donc, je vais prier. Au nom de Jésus, si vous êtes sous une oppression, par exemple, vous vous êtes attaqué, peu importe, vous faites le ménage, au nom de Jésus, je fais du ménage. Mais là, après, je peux prier. Et quand on réalise que vraiment le ciel, c'est une vraie place, ce n'est pas une place inventée, c'est une place qui existe vraiment, je ne sais pas comment vous le dire, mais quand on réalise qu'on est un enfant de Dieu, on a été sauvé, puis on est invité, approchez-vous du trône de la grâce, approchez-vous. On est même exhorté, venez. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, Dieu lui a dit, dans le verset, j'essaie de le retrouver là, c'est ça, Apocalypse 4. Apocalypse 4, verset 1. « Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Puis là, on sait que Jean a eu plein de révélations. Toute l'Apocalypse, il y a eu ces révélations-là quand Jean est monté au ciel pour recevoir les révélations concernant l'Apocalypse. L'apôtre Paul est monté au ciel pour recevoir des révélations concernant probablement la révélation de la grâce, salut de la grâce, le message de la croix, tout ça. Ça, c'est dans 2 Corinthiens. Sauf que ce qu'on voit ici, c'est que vraiment le ciel, c'est une place véridique. Mais nous, des fois, on est là, on est dans notre monde qu'on voit, puis on se dit, ben, quand je vais mourir, je vais aller au ciel. Mais si dans votre vie quotidienne, vous passez du temps avec l'Esprit de Dieu, dans le sens où vous priez, puis vous êtes sensible à ce que l'Esprit de Dieu peut vous montrer. Qu'est-ce qu'il va vous montrer? Mais vous allez commencer à vivre des expériences avec l'Esprit de Dieu dans le surnaturel. Parce que vraiment, le ciel, c'est une vraie place. Puis souvent, on a vu des choses à la télévision, on s'imagine que le ciel, c'est juste des nuages puis du monde qui flotte. Mais c'est une vraie, vraie place. Quand j'ai eu ma visitation en 2004, moi, je me suis retrouvé dans une partie de la visitation. Je me suis retrouvé dans une chambre qui était ronde, totalement ronde. Et puis, le Seigneur Jésus m'avait donné, il est allé vers une armoire, il a ouvert une armoire, puis il m'a donné quelque chose. Mais en fait, c'était une, Ça ressemblait à une pomme, mais c'est comme un fruit qui était en or. Et dans ma main gauche, j'ai reçu, c'était comme une barre d'or. Et puis, ça représentait, de un, la malédiction était renversée et la barre d'or représentait la provision de Dieu. Ça, j'ai reçu dans cette chambre ronde. Mais c'est une chambre avec plein d'armoires, des portes d'armoires. Puis, c'était comme un mur qui brillait. Si on veut, je ne sais pas comment dire, mais c'est un mur. C'est une chambre ronde avec plein d'armoires. Puis, dans les armoires, il y a des choses qui sont à Dieu. Je ne sais pas quoi. Mais là, quand il a ouvert ça puis il m'a remis ces choses-là, tout de suite, je savais ce que Dieu m'appelait à prêcher. Puis c'était en rapport. La malédiction a été renversée et la provision de Dieu est là pour tout ce qu'on a besoin. Puis c'est sûr, c'est un message que tout le monde déteste, là. Mais pas tout le monde, mais plusieurs personnes vont s'opposer. Mais je sais que c'est de Dieu. Parce qu'on n'est plus maudit, on est béni maintenant. Mais là, moi, j'ai eu cette visitation-là, j'ai eu cette expérience. Puis je vous donne, c'est juste une capsule de ce que j'ai vécu. Bon, mais là, je pensais, bien, je suis le seul qui a vécu ça. C'est une vision. Hein? J'ai vu ça, j'ai reçu ça dans mon expérience. Mais là, plus tard, quand j'étais en train de travailler à l'antenne de TV, j'étais derrière mon ordi, puis dans mon bureau, j'avais une télévision devant moi parce que dans les bureaux là-bas, à l'antenne de TV, on avait tous des télévisions pour voir ce qui se passait sur l'antenne parce qu'on filmait puis on voyait tous en direct la production. Et il y avait un invité qui était là puis racontait son expérience quand il avait été ravi au ciel. Puis il a dit, ben, je me suis retrouvé dans une chambre ronde. Puis il dit, dans cette chambre-là, il y a des armoires. Puis il a décrit tous les détails de ce que j'avais vu. Puis quand je l'ai entendu, je me suis levé de ma chaise. J'étais, j'étais vraiment comme sous choc que quelqu'un d'autre avait vu ce que j'avais vu. Mais là, quand j'ai réalisé par après, j'ai comme réfléchi. C'est bien vrai, c'est une vraie place. C'est pas dans l'imaginaire. Tu sais, les gens pourraient dire, ben moi, j'ai vécu telle chose. Puis les gens disent, ils s'imaginent des affaires où. Vous imaginez des choses, si vous avez une vision. On peut être comme ça, puis toujours dire, bah, le monde s'imagine des choses. Ben oui, vous pouvez penser comme ça, mais vous ne vivrez jamais rien parce que vous n'êtes jamais dans la foi, puis vous pensez qu'on ne peut rien vivre avec Dieu. Mais si on réalise que cette place-là est vraiment là, elle existe là, vraiment, puis c'est plus tangible que ce qu'on vit même ici, là, c'est plus vrai. Bon, mais on sait que c'est une vraie place. La Nouvelle Jérusalem, c'est une vraie place, puis on se dit, mais comment est-ce qu'on fait pour y aller? Mais nous, les enfants de Dieu, c'est par la foi, en priant, par la prière. Il n'y a pas de distance. On n'est pas obligé de prendre la NASA, un vaisseau de la NASA pour s'y rendre. Hein? C'est par la foi dans la prière où on est transporté, puis on vit, puis on voit des choses. Mais pourquoi? Est-ce que c'est pour en parler après, puis se péter les bretelles? Non, c'est pour vivre l'intimité avec Dieu, puis aller chercher au ciel ce qu'on a besoin pour notre vie ici. Puis une des choses, moi, ce que je n'avais pas compris au tout début, c'est que ce que j'avais vécu, bien moi, c'était souverain, comme je vous ai dit. Puis après, quand je suis revenu, j'étais tellement comme dégoûté d'être de retour. J'ai eu des mois à rester comme vivant, si on veut. Je ne voulais pas me suicider, rien. Mais j'étais comme dégoûté d'être de retour. Puis j'étais dans mon bureau, puis j'étais triste. J'étais triste. J'étais au Miracle Channel, puis j'étais comme... j'aime ma femme, j'aime mes enfants. J'étais tout... j'étais comme... j'aime ma vie, j'ai une belle vie, mais j'étais comme... comment ça, Seigneur, tu m'as permis de voir ça pour revenir puis être pogné ici? Comprenez? Être pris dans mon bureau... ça ne me tente pas d'être ici, parce que quand on a goûté à la présence de Dieu comme ça, on ne veut plus rien d'autre. Mais là, plus tard, j'ai compris, par la prière, on peut retourner. C'est sûr que, moi, je crois que Dieu veut qu'on puisse expérimenter sa présence. Si on l'expérimente plus, bien, notre vie chrétienne va être différente. Ça va changer notre vie, parce que là, on ne sera pas toujours dans le terre-à-terre. On ne sera pas toujours en train d'examiner les choses qu'on trouve qu'on n'aime pas dans le monde ou dans nos églises ou avec les gens. On ne sera pas toujours en train de chercher ici et là pour plein d'affaires parce qu'on va être tellement occupé à vivre d'autres choses. T'sais, au lieu d'être toujours insatisfait, on va vivre quelque chose avec Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que si on peut vivre vraiment le surnaturel, bien, moi, je crois que c'est possible. Je l'ai vécu. Puis je vous le dis, c'est pas parce que je suis meilleur que quelqu'un d'autre. Il y en a plein d'autres qui ont vécu des choses. Mais c'est qui vit des choses comme ça? C'est des gens qui ont reçu une touche de Dieu. Puis pour recevoir une touche de Dieu, est-ce qu'on a besoin d'être spécial? Non. Dieu aime tout le monde, n'est-ce pas? Parce que Dieu nous aime. Il nous aime tous. Il ne fait pas d'exception de personne. Êtes-vous un enfant de Dieu? Vous avez été adopté dans sa famille. Donc, vous faites partie de sa famille royale. Est-ce que le ciel est votre maison, votre résidence? Oui. Pensez-vous que vous avez le droit de voir votre maison? Oui, mais comment est-ce que vous allez voir cette maison-là ou voir la place que Dieu vous a préparée? Vous pouvez dire, bien, je vais attendre de mourir, peut-être. C'est sûr, en mourant, vous allez la voir. Mais dans la prière, vous allez pouvoir voir des choses. Puis des fois aussi, juste rajouter, des fois les gens peuvent dire « Ah, ben là, tu t'imagines des choses. » Mais même le mot « imaginer », c'est perçu d'une façon négative. On va dire « Ah, ben on s'imagine des choses. » Et en général, quand on parle de s'imaginer des choses, c'est négatif. Comme les enfants vont dire « Ah, j'ai le Père Noël, j'ai imaginé le Père Noël. » Tu sais, ou « Je sais pas, j'imagine. » Quand on parle de l'imagination, on croit que c'est de s'inventer des choses qui ne sont pas réelles. C'est ça qu'on s'imagine. Mais le mot imaginer, là-dedans, on retrouve le mot image. Mais Dieu nous parle par des images. Quand vous lisez votre Bible, vous allez avoir des images. Comme j'ai déjà prêché, si je dis un éléphant rose, bien là, vous allez avoir l'image d'un éléphant rose. Si je dis un tigre bleu, bien, vous voyez un tigre qui est bleu, n'est-ce pas? Vous allez avoir des images, mais là, c'est moi qui vous dis quoi voir. C'est moi, je suis en train de vous le dire par mes paroles. Mais si vous priez, puis l'Esprit de Dieu vous impose des images, parce que vous passez du temps avec lui, c'est pas votre imagination. C'est, oui, ça peut être par votre imagination, dans le sens que l'Esprit de Dieu va passer par vous, mais l'imagination, c'est pas rien de négatif. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? C'est pas mal. C'est comme de l'argent, c'est pas mal, c'est ce qu'on en fait avec. Mais on peut permettre à l'Esprit de Dieu d'utiliser même notre imagination. Puis j'avais fait une étude même biblique sur l'imagination. Faites faire des recherches dans la Bible si vous voulez. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous passez du temps avec Dieu, laissez l'Esprit de Dieu vous montrer ce qu'il veut vous montrer. Tout simplement. Suivez l'Esprit de Dieu dans votre temps de prière. Puis commencez même à écrire peut-être ce que vous recevez. Parce que peut-être l'ennemi par la suite va venir vous attaquer puis dire « Ah, oh, ça se peut pas, c'est le doute. » Mais le doute, c'est toujours comme l'arme de l'ennemi. Comme par exemple, quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, puis là après, souvent les gens vont dire « Ah, oh, mais est-ce que ça vient de moi? » Je me demande, est-ce que je m'invente des choses? Des fois, c'est toujours comme ça. L'ennemi veut toujours nous faire douter de nos expériences avec Dieu. Pourquoi est-ce que l'ennemi veut nous faire douter? Bien, parce qu'il ne veut pas qu'on vive quelque chose de surnaturel. Mais quand on met le doute de côté, puis on rentre dans la foi, puis on dit non, j'ai demandé à l'Esprit de Dieu de me diriger, puis dans mon temps de prière, moi, je m'attends que je vais vivre quelque chose, je ne sais pas quoi, puis ce n'est pas quelqu'un d'autre de l'extérieur qui va me dire ce que je dois voir. Là où ça devient mauvais et antibiblique, c'est si moi, je commençais à vous dire, « OK, maintenant, voyez ceci, voyez cela. » Non, ça, c'est pas le même. C'est vous devant Dieu. Vous allez prier, puis vous cherchez la face de Dieu. Puis quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous permettez, vous ouvrez votre cœur. Est-ce que l'Esprit de Dieu illumine les yeux de votre cœur? Tout simplement. C'est écrit dans la Bible. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je veux que tu puisses vraiment m'illuminer mes yeux de mon esprit. Et là, vous allez prier ça, vous allez recevoir quelque chose. Sinon, c'est écrit dans la Bible pour rien. Pourquoi ça illumine mes yeux? Attends donc que je meure. Après ma vision spirituelle va être claire, hein? 20-20. Mais si on a cette prière-là dans la Bible, c'est pour nous aujourd'hui. Ça fait que c'est ça ce que j'avais à cœur de vous partager concernant la gloire de Dieu. On pourrait passer des heures et des heures. Peut-être un jour, on va faire... comme un séminaire d'une fin de semaine là-dessus. Qui sait comment? Mais je vous ai donné juste des choses de base, que les autres cours qu'on a vus, c'était la base, pas avoir peur du surnaturel. Parce que déjà là, si on a peur, on vient d'annuler toute possibilité de vivre le surnaturel, hein, de ne pas avoir peur. Deuxième chose qu'on a vue, c'était quoi donc la dernière fois? Comment créer l'atmosphère pour vivre la présence de Dieu? C'était dans la louange d'adoration qu'on a vu tout simplement. Et là, ce soir, ce qu'on a vu, c'est être dans la foi pour vraiment vivre ce qu'on voit dans Éphésiens, que Dieu ouvre nos yeux. Puis on enlève toutes les choses qui peuvent attrister l'Esprit de Dieu parce que c'est un non-sens de s'imaginer vivre la gloire de Dieu, la présence de Dieu, quand on le méprise puis on l'attriste. Puis on méprise les gens que nous côtoyons. Est-ce que ça fait du sens? Ça fait du sens, hein? Mais c'est possible. Il y a toute une autre dimension si on veut bien. Puis le mot « dimension », là, je termine avec ça, puis après on va pouvoir prier. Mais vraiment, quand on réalise... On voit juste, quoi on dit, combien de dimensions, là, nous? Nos sens, on a des sens. On a cinq sens. Hein? Bon, on a cinq sens, puis toute notre vie, on est souvent géré par nos cinq sens. On est limité par nos cinq sens. Mais imaginez le créateur de l'univers qui a créé les étoiles qu'on voit. Si vous regardez ce soir en sortant, vous regardez le ciel, si le ciel est ouvert, si on ne voit pas plein de nuages, on va voir des étoiles. Si vous regardez des émissions de télévision, la science, vous voyez les planètes puis les univers. Puis c'est infini. Donc, imaginez que ce qu'on vit ici, là, au Québec, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. On fait juste sortir du Québec Puis on va ailleurs, on vit d'autres choses avec Dieu des fois. Parce qu'il y a d'autres climats spirituels. Il y a des personnes qui ont baigné dans l'onction, puis on vit d'autres choses ailleurs. Juste le fait de sortir de la province, on peut vivre d'autres choses. Mais imaginez, si vous n'êtes pas limité par le climat spirituel de la place, mais vous êtes plutôt influencé par le climat spirituel du ciel. Imaginez la différence. Imaginez. Mais vous dites, mais comment est-ce qu'on fait y aller? C'est une autre dimension. C'est une autre dimension spirituelle, mais qui est vraie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais c'est vraiment, c'est une autre dimension dans laquelle on peut vivre. Puis même le temps, là, ça, c'est une chose qu'on se limite. C'est pour ça que quand on prie, puis on est perdu dans la dimension de la gloire de Dieu, les heures peuvent passer, puis c'est comme si on n'a pas passé. Tu sais, c'est comme 8 heures peut passer comme une demi-heure. Vous comprenez? Parce qu'on rentre dans une autre dimension. On n'est pas comme du tout influencé par le temps comme ça. Puis notre Dieu, c'est un Dieu de l'éternité. Notre Dieu, l'éternel, qu'on voit dans la Bible, souvent il est écrit, le texte, on va lire, ça est écrit, l'éternel. Mais l'éternel, Dieu est éternel, Dieu habite en dehors du temps. Ça, c'est une autre chose. Dieu est en dehors du temps. C'est pour ça que Dieu peut nous montrer des visions. Tu sais, le temps, nous, on connaît notre date de naissance et on sait qu'un jour, on va mourir. On est tout le temps comme ça. Nous, c'est toujours selon notre temps, l'horaire, le calendrier. On est tellement comme ça. Ça, c'est une dimension. La dimension de Dieu est autre chose. Il n'y a pas de temps. C'est pour ça qu'on peut être dans la présence de Dieu comme ça, dans un instant, vivre des choses. Et là, comme on commence à s'ouvrir à ce que l'Esprit de Dieu nous montre des choses, c'est là où on devient plus sensible aussi à vivre des expériences même dans le royaume du ciel. Parce qu'on sait que, bon, on est là, on se voit, des frères et des sœurs ici ce soir, mais aussi, il y a une armée spirituelle qui est là. Il y a des anges qui sont là. Vous le savez, ça aussi. On lit la Bible. Bon, Marie a reçu la visite de Gabriel, par exemple. Bon. Mais si ce soir, je vous disais, ben moi, je connais mon ange, puis je connais son nom. Bien là, vous pourriez dire, bien là, il est tombé sa tête. N'est-ce pas? Il y a bien des chrétiens qui diraient ça. Savez-vous pourquoi je peux vous dire qu'il y a bien des chrétiens qui diraient, bien, il est tombé sur la tête? Parce que non, je ne me suis pas fait dire. Mais, une fois, j'ai raconté mon témoignage comme à Dieu m'avait parlé. Puis c'est un témoignage de base, juste comme à Dieu m'avait parlé dans ma vie. Puis j'étais devant une femme dans une église. Je racontais juste un à un dans le portique. Là. Je racontais ce que Dieu avait fait dans ma vie. Un témoignage, puis elle m'écoutait. Puis je rentrais dans les détails. J'expliquais. C'était ici à Granby. Là. Et puis je parlais, puis elle m'écoutait comme ça. Puis à la fin de mon témoignage, j'ai dit, « Tu crois que Dieu parle encore aujourd'hui? » J'étais comme... Hey, là, je me sentais vraiment comme un idiot. Je me disais, elle croyait même pas que Dieu pouvait nous parler. J'étais, hey, j'ai perdu tout mon temps. Mais c'était pas une perte, c'était une semence. Mais je me suis dit, mon doux, vous comprenez? Sauf que là, imaginez, si vous dites bien, Dieu m'a montré si c'était qui mon ange et j'ai compris pourquoi il est assigné à mon ministère ou telle chose, c'est encore 100 fois pire. Si le monde croit même pas que Dieu peut nous parler, parce que les anges existent même, c'est comme... On peut lire la Bible et dire, ah, les anges existaient dans la Bible, mais oui, mais est-ce que les anges peuvent exister aujourd'hui? On dirait les gens dans le monde, des fois, croient plus que les croyants. Il y a plus de croyants dans le monde que des croyants dans l'Église, souvent. C'est vrai, ça. Dans le monde, ils ont plein de livres sur les anges. Avez-vous remarqué ça? Vous allez dans des magasins ésotériques, moi, je ne rentre pas là-dedans, mais même dans les épiceries de santé, de nourriture de santé, c'est plein de livres sur les anges, puis toutes les choses comme ça. Les gens croient dans plein de choses. Puis les chrétiens croient dans... Bien, on dit les croyants qui ne croient pas. Ça devient des gens incrédules. C'est parce que la raison, puis je reviens à la première soirée qu'on a eue, c'est parce qu'on a peur d'être séduit. Les chrétiens ont peur du nouvel âge, ont peur du surnaturel, parce qu'on a peur de se faire avoir. Mais la peur, c'est l'opposé de la foi. Sauf que si on veut vivre la gloire de Dieu et la présence de Dieu, il va falloir qu'on commence à croire la Bible et s'ouvrir à ce que la Bible dit. Puis dire, bien, si dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, il y avait des anges, il y avait des visitations, il y avait des gens qui étaient transportés en esprit, ravis en esprit, puis téléportés en esprit, physiquement, vous connaissez ces histoires-là. On pourrait tout voir ça. Mais nous autres, on dit, bien là, ça ne se peut pas. Pourquoi que ça ne se peut pas? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi ça ne se peut pas? Je connais quelqu'un, moi, qui a été transporté en esprit, qui devait aller prêcher dans une réunion, mais à cause d'un vol, je ne me souviens plus trop des détails, la personne, c'était impossible que la personne se rende à l'heure à l'église. Puis la personne avait appelé dire, « Écoutez, je viens d'atterrir, ça va me prendre des heures avant de me rendre là-bas. » Et puis finalement, ça a pris genre comme une demi-heure. Au lieu, c'était supposé de prendre des heures. Mais dans l'onction de Dieu, la personne a été transportée et puis est arrivée à l'église pour prêcher. Puis on dit, mais comment vous avez fait? Je ne sais pas, j'ai pris l'autoroute puis me voilà. Comment ça? L'Esprit de Dieu avait fait quelque chose pour amener la personne pour faire l'œuvre du ministère. Bon, on pourrait dire ça à bien des chrétiens, ils diraient qu'on est fous. Mais c'est une chose qui existe. Moi, j'ai vécu quelque chose de surnaturel que je vous ai déjà raconté. Ça, c'était juste la protection de Dieu. Je me dirigeais avec Mathilde vers un mur. C'était pour être un accident peut-être mortel. On a crié. Bon, vous vous rappelez, j'ai déjà raconté. Le chemin était vraiment tout en glace. Puis on était dans une courbe. Puis on était pour frapper un mur de pierre ou de briques. On était vraiment pour rentrer dedans, là. Puis on a crié, Mathilde et moi, en même temps, « Jésus! » Puis notre auto a été « chou. Puis pour les gens à la radio, ils ne peuvent pas voir, là. Mais mon auto a été soulevé et puis redirigé dans une autre direction. On l'a vécu, puis après, on était comme « aïe aïe, wow! » Ça, c'était Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Est-ce que c'était quatre anges qui ont décidé de prendre mon auto? Je ne sais pas comment ça a fonctionné. Je n'ai rien vu, mais je sais que je ne suis pas rentré dans un mur. Ça, je sais. Ça fait qu'il y a des choses surnaturelles dans une autre dimension. Mais pour vivre l'autre dimension, il faut être dans la foi, puis il faut enlever nos limitations, puis dire, Seigneur, tu es beaucoup plus grand que mon expérience présentement.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.